C'est un jour de joie. C'est un jour de joie et c'est important que nous puissions, c'est vrai, replacer Noël dans toute sa vérité. Vous l'avez vu la semaine passée dans les feuillets qui étaient distribués. Un Noël sans Jésus est comme un faux billet. Voilà. Le centre de Noël, c'est Jésus. C'est Jésus venu dans la chair, venu rejoindre l'humanité. C'est Jésus venu nous sauver. C'est Jésus qui a pris notre chair, il a pris l'humanité, il a pris notre condition humaine et il l'a partagé avec nous. Et effectivement, Noël, c'est l'anniversaire de Jésus. Alors, à l'heure d'aujourd'hui, on a un petit peu tendance à faire des fêtes d'anniversaire spéciales pour Jésus. Donc, on va dire que c'est la fête d'anniversaire d'Éric. Alors voilà, c'est la fête d'anniversaire d'Éric, je prépare du gâteau, je prépare du kidibule et tout ça, des chips, tout ce qu'il faut pour l'anniversaire d'Éric. Et puis les gens arrivent, ils commencent à arriver à 15h, ils sonnent. Ah oui, allez-y, rentrez, venez, c'est le grand jour, allez, toi, viens, rentre. Et puis voilà, les gens rentrent, on est 40 dans la maison, il n'y a plus de place. Et puis Éric sonne, je peux rentrer? Ah, non, hein, Éric. Et attends, c'est ta fête, mais tu restes dehors. Voilà ce que nous faisons avec Jésus. Voilà, c'est sa fête, mais la seule personne que nous ne célébrons pas, c'est lui. Nous célébrons notre vie, nous célébrons notre petite vie, mais nous ne célébrons pas Jésus, alors que c'est son anniversaire. Il est né, il est venu sur terre. Et c'est important, en tant que chrétien, c'est au centre de notre foi, d'affirmer que Jésus est venu dans la chair. 1 Jean chapitre 4, versets 2 à 3 dit « Reconnaissez à ceux-ci l'Esprit de Dieu, tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. » Vous savez que si jamais quelqu'un proclame que Jésus n'est pas réellement venu dans la chair, il est à côté de la foi chrétienne, il est à côté de l'Évangile. C'est-à-dire que devant Dieu, ça ne compte pas. Quelqu'un qui aurait toute la foi du monde, mais qui ne croit pas que Jésus est réellement venu dans la chair, n'a pas son salut. Parce qu'il n'est pas dans la foi biblique. Donc c'est important de dire, il est venu dans la chair. Mais il y a eu, et 1 Jean le dit, pourquoi? Parce qu'il y a eu pendant des siècles et des siècles des hérésies sur le sujet. Des gens qui disaient, mais il n'est pas réellement venu en chair, ce n'était pas tout à fait ça, c'était une illusion. Vous connaissez des gens jusqu'aujourd'hui qui font des cultes dans lesquels ils croient que Jésus, c'était qu'une illusion. On avait l'impression qu'il était là, mais il n'était pas vraiment venu en chair. C'est très grave. Parce que ce sont des hérésies. Alors vous savez que sur les choses bibliques, il y a des détails, hein. Il y a des choses qu'on ne va pas en discuter pendant des heures. L'apôtre Paul disait que celui qui veut manger, mange, celui qui ne veut pas manger, ne mange pas, que celui qui veut observer les jours, observe les jours. Donc il y a une certaine liberté. Mais là, nous sommes vraiment au cœur de la foi chrétienne. Et c'est important que nous puissions proclamer cela. Il est venu dans la chair. Il est né un jour, il est sorti du ventre d'une femme et il nous a rejoints dans notre humanité. Alors aujourd'hui, nous allons lire un texte, forcément le texte de Luc, chapitre 1. Alors c'est triste de voir que nous ne lisons les textes de la naissance de Jésus qu'à Noël. Bon, voilà. Souvent, c'est des trucs qu'on ne lit jamais, à part quand Noël approche. Donc Luc chapitre 1, et nous ne serons pas longs, pas parce que nous voulons plus vite nous en aller, mais parce que, bon, c'est... Luc chapitre 1, et nous allons lire à partir du verset 26, et là, nous allons lire jusqu'au... jusqu'au verset 56. Non, plutôt Luc chapitre 2, c'est ça. Luc chapitre 2, à partir du verset 1 jusqu'au verset 40. Luc chapitre 2. Évangile selon Luc chapitre 2. En ces temps-là, l'empereur Auguste publia un édit qui ordonnait le recensement de tous les habitants de l'Empire. Ce recensement, le premier du genre, eut lieu à l'époque où Quirinus était gouverneur de la province de Syrie. Tout le monde allait se faire recenser, chacun dans la localité dont il était originaire. C'est ainsi que Joseph, lui aussi, partit de Nazareth et monta de la Galilée en Judée, à Bethléem, la ville de David. Il appartenait en effet à la famille de David. Il s'y rendit pour se faire recenser avec Marie, sa fiancée, qui attendait un enfant. Or, durant leur séjour à Bethléem, arriva le moment où Marie devait accoucher. Elle mit au monde un fils, son premier-né, elle lui mit des langes et le coucha dans une mangeoire parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans la pièce réservée aux autres. Dans les champs environnants, des bergers passaient la nuit pour garder leurs troupeaux. Un ange du Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Une grande frayeur les saisit, mais l'ange les rassura. « N'ayez pas peur, je vous annonce une nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une très grande joie. Un sauveur vous est né aujourd'hui dans la ville de David et c'est lui le Messie, le Seigneur. » Et voici à quoi vous le reconnaîtrez, vous trouverez un nouveau-né dans ses langes et couché dans une mangeoire. Et tout à coup apparut aux côtés de l'ange une multitude d'anges de l'armée céleste qui chantaient les louanges de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Quand les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent l'un à l'autre, allons donc jusqu'à Bethléem pour voir ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. Ils se dépêchèrent donc d'y aller et trouvèrent Marie et Joseph avec le nouveau-né couché dans une mangeoire. Quand ils le virent, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de cet enfant. Tous ceux qui entendirent le récit des bergers en furent très étonnés. Marie, elle, conservait le souvenir de toutes ces paroles et y repensait souvent. Les bergers s'en retournèrent louant et glorifiant Dieu au sujet de tout ce qu'ils avaient vu et entendu. C'était bien ce que l'ange leur avait annoncé. Lorsque 8 jours plus tard arriva le moment de circoncire l'enfant, on lui donna le nom de Jésus. C'était le nom que l'ange avait indiqué avant qu'il ne fût conçu. Puis, une fois passé le temps prescrit par la loi de Moïse pour leur purification, les parents de Jésus l'emmenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. En effet, il est écrit dans la loi du Seigneur, « Tout garçon premier-né sera consacré au Seigneur ». Il venait aussi offrir le sacrifice requis par la loi du Seigneur, une paire de tourterelles ou 2 jeunes pigeons. Il y avait alors à Jérusalem un homme appelé Siméon. C'était un homme droit et pieux. Il vivait dans l'attente du salut d'Israël et le Saint-Esprit reposait sur lui. L'Esprit Saint lui avait révélé qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le Messie, l'envoyé du Seigneur. Poussé par l'Esprit, il vint au temple. Quand les parents de Jésus apportèrent le petit enfant pour accomplir les rites qu'ordonnait la loi, Siméon le prit dans ses bras et loua Dieu en disant « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix. Tu as tenu ta promesse, car mes yeux ont vu le Sauveur qui vient de toi et que tu as suscité en faveur de tous les peuples. Il est la lumière pour éclairer les nations et sera la gloire d'Israël, ton peuple. » Le père et la mère de Jésus étaient émerveillés de ce qu'il disait de lui. Siméon les bénit et dit à Marie, sa mère, « Sache-le, cet enfant est destiné à être pour beaucoup en Israël une occasion de chute ou de relèvement. Il sera un signe qui suscitera la contradiction. Ainsi seront dévoilées les pensées cachées de bien des gens. Quant à toi, tu auras le cœur comme transpercé par une épée. » Il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Phanuel de la tribu d'Asser. Elle était très âgée. Dans sa jeunesse, elle avait été mariée pendant 7 ans. Puis elle était devenue veuve et elle avait vécu seule jusqu'à 84 ans. Elle ne quittait jamais le temple où elle servait Dieu, nuit et jour, par le jeûne et la prière. Elle arriva, elle aussi, au même moment. Elle louait Dieu et parlait de l'enfant à tous ceux qui attendaient que Dieu délivre Jérusalem. Après avoir accompli tout ce que la loi du Seigneur ordonnait, Marie et Joseph retournèrent en Galilée, à Nazareth, leur village. Le petit enfant grandissait et se développait. Il était plein de sagesse. Et la grâce de Dieu reposait sur lui. Amen. C'est une longue lecture. Mais vous allez comprendre l'intérêt de faire une si longue lecture, c'est de comprendre l'entièreté de ce qui nous est raconté. Ce texte de Luc, chapitre 2, est un très beau texte. C'est vraiment très beau à lire, parce qu'on a vraiment l'impression d'être à un moment où le ciel rencontre la terre. C'est comme un moment donné où finalement il n'y a plus une nette séparation entre la terre et le ciel. C'est comme si le ciel s'invitait sur terre si bien que des multitudes d'anges viennent se révéler et qu'on chante « Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre parmi les hommes ». C'est-à-dire, voilà, il se passe une interaction spécifique entre le ciel et la terre. Et c'est un texte vraiment magnifique parce que quand on voit les bergers, ce qu'ils ont vu, quand on voit les paroles de Siméon, quand on voit les paroles de Anne, on se dit « Waouh ! Waouh ! Quel grand moment ! Quel grand moment ! Jésus, le Messie, est venu. Ce que Dieu avait promis depuis des siècles, depuis des dizaines de siècles, c'est arrivé. Jésus est vraiment né. » Ce n'est pas un détail, ce n'est pas quelque chose. Vous comprenez, ce n'était pas une parenthèse dans la vie. C'est quelque chose de grave. Jésus est né. Il est vraiment là, il est vraiment présent. Et nous pouvons le voir, nous pouvons le toucher. Et ce qui se passe dans ce texte de Luc chapitre 2, c'est que nous voyons l'événement principal de ces instants-là, c'est-à-dire la naissance de Jésus, mais en toile de fond, on nous parle de plusieurs personnes qui faisaient certaines choses au moment où Jésus est arrivé. Il y a au premier plan la venue de Jésus, la grâce qu'il y a dans l'accomplissement des promesses de Dieu, et en arrière-plan, en toile de fond, on nous parle de gens tout à fait ordinaires, qui faisaient des choses tout à fait ordinaires, des gens qui pendant des années ont persévéré dans la même chose. Et c'est ce que nous voulons voir aujourd'hui. Nous allons voir quatre personnes ou quatre groupes de personnes qui sont en toile de fond, qui pendant des années ont persévéré dans une chose et un jour, la promesse est accomplie. C'était des gens qui vivaient une existence absolument ordinaire. Vous comprenez, dans le texte de Luc chapitre 2, on ne nous parle pas de gens tout à fait hors du commun. Aucun d'eux n'a fait descendre le feu du ciel. Aucun d'eux n'a ordonné au soleil de s'arrêter. Ce sont des gens ordinaires qui menaient une vie ordinaire. Simplement, et l'imparfait, parce qu'en français, ça nous est raconté à l'imparfait, on nous montre que c'était des gens qui persévéraient dans une chose. Simplement, ils faisaient constamment la même chose. Ils étaient constamment droits dans ce qu'ils faisaient, persévérants, patients. Et c'est dans ce contexte-là que Dieu s'est manifesté. Premièrement, première catégorie de personnes, Marie et Joseph. Alors effectivement, on ne peut pas parler d'autre chose. Marie et Joseph, un couple de fiancés, pas encore mariés. Le texte commence par nous dire, dans Matthieu 2, verset 19, que Joseph était un homme bon et droit. Jésus n'est pas né dans n'importe quelle famille. Il n'est pas né chez des gens un peu distroy, il n'est pas né chez des gugus, quoi. C'était des gens sérieux. Joseph était un homme fidèle et droit. Un homme bon, un homme droit. C'était quelqu'un de bien. C'était quelqu'un qui la Bible témoigne sur sa personne, c'était un homme bon, un homme droit, un homme juste, un homme correct devant Dieu. Et ensemble, Marie et Joseph étaient fiancés, et bon voilà, ils n'avaient pas, c'est la Bible qui nous le dit, ils n'avaient pas encore eu de relations sexuelles. En d'autres termes, c'était des gens, ils n'étaient pas très spéciaux, c'était pas des gens hors du commun, c'était juste un couple qui vivait en faisant la volonté de Dieu, les fiançailles, correctement, des simples fiançailles, ils attendaient le temps de se marier, un couple ordinaire. Joseph, nous dit la Bible, était un homme bon et droit, mais c'était aussi un homme tellement bon que quand l'ange, quand il s'est rendu compte que sa fiancée était enceinte, la Bible nous dit qu'il a voulu briser les fiançailles sans en ébriter la raison pour ne pas la livrer au déshonneur. Donc, dans son intention, c'était un homme bienveillant. Il avait une fiancée, mais il voulait le bien de la fiancée. Il n'avait pas envie de l'acheter comme ça avec son enfant et qu'elle se retrouve méprisée, raillée par tout le monde. C'était un homme bon, un homme droit, un homme juste, un homme bienveillant, qui vivait une simple vie, il vivait ses petites fiançailles correctement. Et c'est dans ce contexte-là que la grâce de Dieu s'est manifestée et qu'on lui a envoyé, on a envoyé le Sauveur dans sa maison. Marie, elle, c'est une jeune femme humble. Elle n'était rien d'autre. C'était une Israélite, droite, sage, pure, pudique, qui avait l'humilité de vivre comme elle vivait. Si bien que quand on lui annonce que le Messie va naître dans son ventre, elle, quand vous lisez le psaume qu'elle lit, hein, ce qu'on appelle l'Ave Maria, etc., elle est... La grâce est venue jusqu'à moi. Elle est émerveillée que Dieu lui fasse une telle grâce. Ce n'était pas une fille sûre d'elle. Hein, ce n'était pas une qui se disait, de toute façon, je suis tellement belle que c'est normal, je suis tellement intelligente, je suis tellement fantastique. Elle vivait dans une simple humilité. Elle vivait dans la fidélité à son compagnon. Et c'est dans ce couple-là que Dieu a décidé d'envoyer Jésus, son fils. Un couple droit, un couple simplement juste. Pas des gens extraordinaires, pas des gens qui soulevaient des montagnes. Des gens qui persévéraient dans leur droiture, dans leur pureté, dans leur sincérité, dans leur bienveillance. Marie et Joseph étaient aussi un couple, et c'est ce que le texte nous montre, si vous lisez bien le texte de chapitre 2, c'était aussi des gens qui respectaient la loi de Moïse. Si bien qu'il nous est dit que lorsque l'enfant est né, ils ont été le présenter au temple, comme cela était requis. On nous dit plus tard qu'ils allaient chaque année à la Pâque à Jérusalem, pour fêter le C'est bien qu'ils ont perdu leur fils là-bas. Vous vous rappelez qu'il s'est retrouvé avec les docteurs de la loi et qu'ils étaient partis. Donc c'était non seulement un couple pur droit, mais je vais dire, pour le dire à la sauce d'aujourd'hui, ils allaient à l'église, quoi. Et ils ne se disaient pas, ils peuvent tous mourir, moi je m'en fiche. Non, ils allaient à l'église. Régulièrement, ils suivaient la loi de Moïse. C'était simplement des gens obéissants. Simplement des gens obéissants. Et vous voyez qu'ils ont amené Jésus pour le faire circoncire. Et puis lorsqu'il a été circoncis, ils l'ont présenté au Seigneur. Ils l'ont présenté comme la loi le demande, en apportant les tourterelles, les pigeons, comme il le fallait. C'était des gens qui faisaient tout simplement tout correctement pendant des années. Des gens qui persévéraient dans leur bien. Romains nous dit, ne vous lassez pas de faire le bien. Ne vous lassez pas de faire le bien. Vous moissonnerez en temps utile. C'est vrai que, en tant que chrétiens, nous ne voulons pas de l'adoration de Marie. Parce que nous pensons que c'est une femme comme une autre. Elle a péché dans sa vie. C'était une femme comme les autres. Mais pas tout à fait comme les autres. Parce que dans le contexte dans lequel elle vivait, Dieu l'a choisie justement à cause de cela. Dieu n'a pas confié son fils à n'importe qui. Il l'a confié à un couple droit, un couple juste, un couple correct. Et un couple qui finalement va élever cet enfant-là dans un bon cadre. Pendant des années, ils vont grandir en allant au temple, en faisant ce que la loi requiert. De ses 0 ans jusqu'à ses 30 ans, Jésus a grandi dans un bon cadre. C'était des bons parents. Tout simplement, rien d'autre. Mais Joseph, Marie, un couple fidèle, un couple qui persévérait dans la fidélité, eh bien Dieu s'est manifesté là, première catégorie de personnes, un couple fidèle. Puis deuxièmement, et d'ailleurs on voit aussi, bon, c'est vrai qu'on peut discuter quand même, parce que j'arrive toujours pas à comprendre comment est-ce qu'ils ont fait pour aller oublier leur enfant à Jérusalem. Bon, il ne faut quand même pas exagérer, c'est comme si vous alliez en Espagne, et puis tu dis, oh, bon, c'est un peu spécial, mais enfin bon, c'est dans un autre contexte dans lequel les enfants voyageaient. Vous savez, c'est comme en Afrique, l'enfant, c'est l'enfant de tout le monde. Hein, donc voilà, il voyage de maison en maison, il se fait disputer par les parents des autres, il se fait frapper par les parents des autres, il se fait corriger par les parents des autres, voilà. Donc c'est aussi un contexte dans lequel il n'y a pas l'inquiétude comme on a aujourd'hui des gens bizarres. Mais en tout cas, c'était un couple fidèle. Première catégorie de personnes, Joseph et Marie, un couple simplement fidèle. Et ensuite, on a Siméon. Siméon, Quel homme ? Vous voyez, ce sont des gens absolument ordinaires. Et la venue de Jésus les a fait ressortir au devant de la scène alors qu'ils n'ont jamais rien fait de très spécial. Siméon, nous dit la Bible, était un homme rempli du Saint-Esprit, un homme sur lequel reposait le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit était assis en lui, le Saint-Esprit habitait en lui, et le Saint-Esprit lui avait révélé qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le Messie. C'est quand même, c'est pas n'importe qui quand même, hein. Parce que Dieu a pris le soin d'expliquer à ce serviteur-là qu'il verrait le Messie. Il lui a révélé d'avance des choses sur le Messie. C'était un homme rempli du Saint-Esprit, un homme qui était droit, qui était pieux, nous dit la Bible, un homme pieux simplement, un homme droit simplement, un homme sur qui reposait l'Esprit de Dieu, et Dieu lui parlait. Mais c'était surtout aussi un homme qui vivait au rythme de la grâce de Dieu, au rythme des promesses de Dieu, parce qu'il nous est dit que quand il a vu l'enfant, il dit « Maintenant Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, car mes yeux ont vu le Seigneur. » En d'autres termes, il attendait l'accomplissement de la promesse. Il veillait, il attendait, il persévérait dans l'attente de la promesse de Dieu. On nous dit que Marie repassait dans son cœur ce qu'elle avait reçu de l'ange. Mais Siméon aussi, c'était quelqu'un qui, vous voyez, il guettait, et le texte nous dit, il vivait pour l'accomplissement de la prophétie. Donc, tout en lui, toute sa vie était tournée vers ce jour fantastique où il verrait le Messie, Jésus. N'est-ce pas que nous ne vivons pas pour les choses de Dieu ? C'est-à-dire que notre plus grande espérance avant de mourir, c'est pas de voir un réveil à Charleroi. Notre plus grande espérance avant de mourir, c'est que notre maison soit payée. On a payé, j'ai payé mon prêt, je peux mourir, ma femme n'aura rien à faire. J'ai payé la voiture, j'ai payé la maison. Les enfants ont un diplôme. Qu'est-ce qu'il y a encore ? Les enfants ont un diplôme. Il y a du riz dans la cave au cas où il y a une guerre. Ceux qui sont célibataires, je serai marié, j'aurai des enfants, voilà. Quand tout ça sera fait, Jésus peut revenir. Mais d'abord que je fasse mes trucs à moi. Vous voyez, ça, on est tous comme ça, hein, moi le premier. Hein. Nous ne vivons pas pour voir les choses de Dieu, nous vivons pour que notre vie s'arrange. Quand je n'aurai plus mal au dos, quand je n'aurai plus ça, et voilà. Mais c'est surtout que ma maison est payée. Ça, c'est, les gens vivent pour ça. Une fois que la maison est payée, voilà. Mais vous voyez que Dieu n'a pas utilisé des hommes comme nous. Hein. Siméon, ce n'était pas ça, hein, son truc. Siméon, ce n'était pas avant de mourir, avoir ma nouvelle voiture, mes nouveaux enfants. Avant de mourir, ce qu'il voulait, c'était voir la promesse de Dieu qui s'accomplisse. Il avait reçu une révélation de Dieu et il vivait pour ça. Alors, de là à dire qu'il s'en fichait du reste, non. Mais il était focalisé sur l'accomplissement des desseins de Dieu. C'était important pour lui que les desseins de Dieu puissent s'accomplir. C'était un homme sur qui reposait l'Esprit de Dieu. Il attendait, il espérait, il veillait. Et ce que j'aime, par-dessus tout, ce que j'aime, c'est que Siméon, d'après ce que le texte nous dit, c'était pas un jeune homme. Dans l'Église, aujourd'hui, on a tendance à vouloir pousser les vieux, les jeter dans la fosse. Allez les jeunes, faites le ministère, allez les jeunes. Comme si les vieux, ben voilà, c'est bon, vous pouvez mourir, vous pouvez vous en aller, on s'en fout de vous. Je suis contre ça. J'aspire après des églises où les vieux sont là, ils aiment Dieu, ils cherchent la face de Dieu comme tout le monde. Siméon, c'était pas un jeune homme. Mais c'est lui que Dieu a utilisé. Hein. À l'heure d'aujourd'hui, c'est affreux parce qu'on ne prêche que... Oui, allez, la jeunesse. Et puis après, tous les autres, voilà. Allez vous asseoir au fond, on vous sert une jatte de café, et puis voilà. Faites pas... Oh, Eric, faites pas trop de bruit. C'est honteux. C'est honteux que nous soyons comme ça. Et avoir une église où il y a beaucoup de personnes âgées, c'est pas négatif. Hein. C'est une grâce. Pourvu que ce soit des personnes âgées comme Siméon. Hein, des gens qui attendent la promesse de Dieu, des gens qui disent, voilà, en plus, les vieux, ils ont payé leur maison déjà. Ils ont payé le cadastre, ils ont payé les voitures. Allez. Oui, ben, c'est chaque année. Oui, le cadastre, ça continue. Mais avoir des vieilles personnes comme ça. Alors les autres personnes âgées ne sont pas là, mais quand ils reviendront, on leur dira. On leur dira, on veut une église où les vieux sont là, où ils attendent la promesse de Dieu, où ils attendent que les choses avancent, où ils veulent aussi voir des réveils. Un homme rempli du Saint-Esprit, un homme pieux. Et moi, j'aime vraiment sa réaction. Il dit, maintenant Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix. Allez, j'ai vu ce que je devais voir. C'est bon, la vie... Waouh, Siméon, un homme droit, un homme pieux, un homme rempli du Saint-Esprit, un homme qui, pendant toute sa vie, a fait tout le temps la même chose. On nous raconte rien d'autre, on ne sait pas s'il était marié, s'il avait des enfants, s'il avait une maison, une Porsche ou une VW, on n'en sait rien. Mais on sait qu'il vivait pour voir l'accomplissement des promesses de Dieu. Et il persévérait là-dedans. Ensuite, troisième groupe de personnes, les bergers, bien évidemment. Les bergers, dans Luc chapitre 2. C'était des gens qui faisaient aussi leur job de tous les jours. Ils travaillaient, quoi. Hein. C'est rien d'autre. Bon, alors, vous savez qu'on dit des mages, des bergers, c'était en même temps des sages, en même temps des gens qui... Enfin, bon, soit. On a compris que c'était des gens qui... était simplement en train de faire ce qu'il faisait tout le temps. Hein, ils n'étaient pas occupés à faire quelque chose de spécial. Ils faisaient leur travail, ils paissaient leur petit troupeau, ils faisaient leur petit boulot et tout ça, quand les anges viennent les voir. Et quand les anges viennent les voir, tout de suite, ils ouvrent leur cœur. C'était des gens, des hommes disposés, des hommes disponibles à l'Esprit de Dieu, disponibles à voilà, Seigneur, qu'est-ce que tu veux ? Et puis, quand ils ont entendu cette parole, lorsqu'ils ont reçu cette parole-là, ils l'ont accueillie dans leur cœur et ils ont commencé à aller en parler partout. Ils ont adoré. C'était aussi des adorateurs, des gens qui adoraient. Ils ont adoré Jésus, ils ont apporté des offrandes. Pas peur des sacrifices, pas peur de payer beaucoup. Ils ont apporté des offrandes et vous savez que dans le texte de Matthieu, on nous raconte que Hérode a voulu les utiliser pour faire tuer Jésus. Hein? Hérode a voulu les utiliser pour faire tuer Jésus. Et finalement, ils ont réussi parce qu'ils justement, ils étaient à l'écoute de Dieu. Comme ils étaient à l'écoute de Dieu, ils ont réussi à ne pas faire tuer le petit bébé Jésus parce que justement, c'était des hommes disponibles à l'Esprit de Dieu, disponibles à ce que Dieu voulait, disponibles à la volonté de Dieu. C'était simplement des gens qui persévéraient toute leur vie dans cette disponibilité. Seigneur, qu'attends-tu de nous ? Que veux-tu de nous ? Et lorsqu'ils reçoivent cette parole de Dieu, finalement, leur réaction, c'est d'aller louer, d'aller adorer. Et parfois, nous sommes tellement faibles, notre adoration est tellement une parenthèse, quelque chose de pas important. Non, c'était des hommes qui voulaient adorer Jésus. Et encore une fois, ils n'ont pas adoré Jésus comme ça, la tête en l'air, ils ont adoré Jésus en apportant des présents devant lui. C'était des sacrifices de bonne odeur, mais ils l'ont fait. Encore une fois, troisième catégorie de personnes, des gens tout à fait ordinaires. Des bergers qui faisaient leur petit boulot tous les jours, ils persévéraient dans une même chose, ils étaient concentrés à une même action. Et alors qu'ils étaient en train d'accomplir cette même action, la grâce de Dieu vient les rencontrer. Tout comme Marie et Joseph, tout comme Siméon, des gens ordinaires, occupés à accomplir la volonté de Dieu, occupés à être fidèles, occupés à être droits. Ils ont vu la gloire de Dieu. Ils ont vu la gloire de Dieu. Ils étaient simplement en train de faire ce que Dieu leur demandait. Et alors, troisièmement, alors ça c'est encore le plus bel exemple et je voudrais en parler beaucoup aujourd'hui parce que Noël, c'est aussi l'occasion pour que nous puissions proclamer ces choses-là. La quatrième catégorie de personnes qui reçoit cette grâce-là, c'est Anne. Anne. Alors, je prends la peine de le lire correctement, comme ça vous aurez compris le message que j'essaie de faire passer depuis tout à l'heure. Anne avait 84 ans. 84 ans, pas d'excuses. 84 ans, elle était là, elle était dans la prière, c'était une femme de prière. Une femme de prière. Elle avait été mariée, puis elle était devenue veuve. Et puis très souvent, c'est vrai qu'à l'heure d'aujourd'hui, malheureusement, et c'est la société, quand les dames deviennent veuves, bon voilà quoi, on ne peut plus rien faire avec toi, mais voilà. Mais dans ce contexte-là, c'est pas la même chose. C'était une veuve qui a été utilisée par Dieu. Elle n'était pas en train d'attendre la mort. Elle était encore là, en train de servir Dieu, encore dans la prière. C'est fantastique, on dit qu'elle ne quittait jamais le temple. Elle servait Dieu jour et nuit. Elle ne faisait pas des gâteaux, elle ne faisait pas... Comme Hélène, elle fait des gâteaux, elle fait des grandes nourritures et tout ça. Et nous profitons tous. Continue, Hélène. Parce que sinon, on n'aura plus de gâteaux et ça ne me plaît pas. Mais enfin, bon. Mais le... Et en plus, je vais quand même relire le verset 36. Il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Asser. Elle était très âgée. Elle était très âgée. Et la Bible nous le dit, pour que nous ne puissions pas justement tomber dans ce travers de dire « L'Église, c'est les jeunes. » C'est faux. L'Église, c'est les vieux et les jeunes, c'est tout le monde ensemble. Et alors, elle arriva au même moment, elle louait Dieu et elle parlait de l'enfant à tous ceux qui attendaient que Dieu délivre Jérusalem. Elle louait Dieu et elle parlait de l'enfant. 84 ans, elle n'avait pas froid aux yeux, elle parlait aux gens, vous savez, le Messie est né. Et elle ne quittait pas le temple, elle ne quittait jamais le temple, et là je vais le dire encore plus fort, je remonte le micro. Elle ne quittait jamais le temple et elle servait Dieu dans le jeûne et la prière. 84 ans, elle jeûnait encore. Pour vous dire, c'était pas une femme comme les autres, hein. Nous, ici, après 50 ans, on ne jeûne plus, hein, on est trop faible. Mais elle continuait à servir Dieu. Alors, vous voyez que ça nous montre aussi combien, quand on est âgé et qu'on continue à être actif, on garde sa forme. Hein. C'est quand on se couche et qu'on dit, bon, maintenant c'est terminé, que là... Mais quand on est actif, quand on continue à servir Dieu, quand on continue à s'intéresser, quand on continue à encourager les jeunes et tout ça... Tite, le livre de Tite nous dit que les femmes âgées doivent conseiller les jeunes sœurs. Donc les femmes âgées doivent conseiller les jeunes sœurs sur comment s'occuper de leurs enfants, comment s'occuper de leur mari, comment mettre leur la maison en ordre, comment nettoyer, comment... Donc la Bible donne un rôle actif aux personnes âgées. La Bible donne un rôle actif aux veuves. La Bible donne un rôle actif aux vieillards, aux Siméon et tous les autres. C'est nous qui les mettons de côté. Une femme de prière, elle ne quittait jamais le temple où elle servait Dieu nuit et jour par le jeûne et la prière. Que c'est beau. Et évidemment, je ne crois pas que ce soit une femme tout à fait comme les autres parce qu'elle était prophétesse. Et je crois que Dieu lui donnait la force, une force particulière. Je ne crois pas que c'était... Je crois que Dieu la fortifiait particulièrement, lui donnait la capacité, parce que humainement, vous comprenez bien qu'à 84 ans, jeûner et prier nuit et jour, on l'aurait retrouvé déshydraté au milieu du temple. Bon, il n'y a pas d'ambulance à ce temps-là, elle serait restée là. Bon donc, Dieu l'utilisait encore. Quatre catégories de personnes. Pas des gens fantastiques, juste des gens fidèles dans ce que Dieu leur avait demandé. D'abord un couple fidèle, Marie, Joseph, ils s'aiment, ils vivent dans la pureté, pas de relations sexuelles, ils sont là, ils sont droits, ils attendent le temps de Dieu. Dieu vient les rencontrer. Ensuite Siméon, un vieillard, un vieil homme, qui est là, qui vit sa vie, il persévère, il veille, il attend la délivrance, il attend la venue du Sauveur. Et quand le Sauveur vient, Maintenant, Seigneur, tu laisses son serviteur s'en aller en paix. Jusqu'à la dernière seconde de sa vie, Siméon aura été actif pour le royaume. Alors, vous savez, on peut être actif en nettoyant des chaises, en faisant des panneaux comme celui-ci. On peut aussi être actif, justement, comme Anne dans la prière. On peut être actif aussi, comme Siméon, dans l'attente des promesses de Dieu. Il y a plein de manières d'être actif. Mais en tout cas, un homme droit. Et vous savez qu'au tout début des évangiles, que ce soit Matthieu, Marc, Luc ou Jean, on nous parle de gens comme ça. La grâce de Dieu vient rencontrer des gens qui sont des hommes droits et purs. Rappelez-vous, comment on l'appelle Éthanaël, non pas Éthanaël. Nathanaël, voilà. Tu vois, c'est comme tu es là, je me trompe. Mais Nathanaël, la Bible nous dit que c'était un homme droit et pieux. Et Jésus lui dit, il n'y a point de fraude en toi. Il n'y a pas de mensonge en toi. Donc, l'histoire de Jésus commence avec tout un ensemble de petits gens, des petits gens insignifiants, juste fidèles, juste persévérants, juste aimant Dieu, juste dans la prière. Et ensuite, les bergers, hein, des hommes disposés, des hommes qui travaillaient. Alors d'aujourd'hui, quand on travaille, c'est pas grave, le royaume de Dieu, c'est pour les autres. Moi, je travaille, j'ai autre chose à faire. Non. Au milieu de leur travail, Dieu s'est manifesté au milieu de ce qu'ils faisaient tous les jours. Hein, vous savez que dans certains métiers, on fait tous les jours la même chose de la même manière. Vous appuyez tout le temps sur le même bouton, mais même dans n'importe quel métier. Vous, à la commune, ben voilà, vous venez tous les jours, vous ouvrez la porte, vous vous asseyez, vous ouvrez les cahiers et tout ça. À l'école, tous les jours la même chose, elles ne font rien grand-chose. Elles arrivent à 8h30, on s'assied, je vous donne les exercices, vous les terminez. Quand vous avez terminé, je reviens les prendre. Et puis elles sont parties, elles vont boire leur tasse de café, et puis voilà. C'est ça à l'école, hein ? Non, c'est pas grave, je dis ça pour l'embêter. Donc, c'était des gens qui répétaient tous les jours la même chose. Dieu s'est manifesté dans leur routine, dans leurs habitudes, dans leur vie ordinaire, dans leur vie de tous les jours. Dieu s'est manifesté à eux. Et nous aussi, nous prions d'être ce genre de personnes que Dieu peut visiter dans leur vie de tous les jours, dans leur vie ordinaire, dans ce qu'ils font tous les jours au boulot, au travail, dans leur vie de prière de tous les jours. Pas des gens extraordinaires, pas des gens complètement hors du commun, mais des gens que Dieu visite. Et encore une fois, quel que soit notre âge, Marie et Joseph, Marie était très jeune, on lui donne 19 ans. C'était une petite jeune, rien du tout. Dans sa pureté, Dieu l'a visité. Dans sa pureté ordinaire, Dieu l'a visité. Siméon, un vieillard, Dieu le visite. Les bergers, certainement qu'ils avaient... On leur donne des trois âges différents hein, dans la tradition. Anne, une vieille femme, une vieillarde, une prophétesse vieille. Mais dans cette fidélité-là de la vie de tous les jours, Dieu se manifeste. Alors ce matin de Noël... Dieu a toujours des grandes choses qu'il veut faire. Il y a toujours des plans dans le cœur de Dieu, il y a toujours des desseins dans le cœur de Dieu qu'il veut accomplir. Et il veut les accomplir avec nous, grâce à nous, par notre intermédiaire. Il nous suffit d'être comme ces gens-là. Des hommes droits, des hommes pieux, des hommes fidèles, des hommes réguliers, des hommes persévérants, des hommes, des femmes qui craignent Dieu, qui l'aiment, qui vivent dans l'attente de ses promesses. Encore une fois, je voudrais vraiment m'arrêter sur ce verset, Luc chapitre 2, verset 25. Il y avait alors à Jérusalem un homme appelé Siméon. C'était un homme droit et pieux. Il vivait dans l'attente du salut d'Israël et le Saint-Esprit reposait sur lui. L'Esprit Saint lui avait révélé qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le Messie, l'envoyé du Seigneur. Poussé par l'Esprit, un homme dans son vieil âge, qui se laissait pousser par l'Esprit, qui se laissait encourager, qui se laissait diriger par l'Esprit de Dieu, il vint au temple. Quand les parents de Jésus apportèrent le petit enfant pour accomplir les rites qu'ordonnait la loi, Siméon le prit dans ses bras et loua Dieu en disant « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix. Car mes yeux ont vu le Sauveur qui vient de toi et que tu as suscité en faveur de tous les peuples. Il est la lumière pour éclairer les nations. Il sera la gloire d'Israël. »